Le journal est présenté par Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour à tous. Non au cinquième mandat. Les Algériens descendent par milliers dans les rues. Au-delà de la fin de l'ère Bouteflika, ils réclament le début d'un réel changement.
Les tirs d'artillerie reprennent à Baghouz. Les forces démocratiques syriennes ont lancé l'assaut final hier soir. Elles espèrent venir à bout de la dernière poche de l'organisation État islamique en Syrie.
Et si la campagne des Européennes commençait dans une émission populaire italienne? C'est ce qui se dessine. Emmanuel Macron est l'invité de la RAI Uno demain soir.
Et ce sera au lendemain d'un 16e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes. 3 mois après le début du mouvement, les manifestants promettent un mois de mars crucial.
Dans ce journal également, un anniversaire, celui d'un gros oiseau. Il s'est envolé pour la première fois le 2 mars 1969. 50 ans après, le Concorde reste un mythe. Et dans la deuxième heure des matins, vos invités, Caroline Brouet.
Eh bien, ils seront deux, exceptionnellement. Oui, nous allons parler de l'Algérie, vous l'avez dit, Rosalie. Nous recevrons la cofondatrice du journal El Waltan, qui est aujourd'hui la directrice du bureau parisien du quotidien francophone, Nadia Bouzegrane, et l'écrivain Salim Bachi. Ils sont tous les deux en studio avec nous.
Des places noires de monde, des drapeaux verts et blancs brandis par la foule, l'Algérie continue de se mobiliser contre un éventuel cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Des dizaines de milliers de personnes se sont encore rassemblées hier, mais sans visa presse, les journalistes étrangers doivent couvrir ces événements à distance, notamment grâce à Internet. Et c'est ce que vous avez fait, Thibaut Cavaillès.
Dès la fin de la grande prière du vendredi, des milliers d'Algériens ont dévalé dans les rues du pays. Alger, bien sûr, Blida, Tizi Ouzou, Béjaïa, avec les mêmes slogans. Non au cinquième mandat, le peuple veut faire tomber le régime, ni Bouteflika, ni son frère Saïd. Une contestation pour demander plus que la fin de l'ère Bouteflika, le début d'un vrai changement, Ramzi, étudiant, l'a dit à des confrères sur place.
Bien sûr que je veux que ça change, sinon je ne manifesterai pas. Et pas seulement contre le cinquième mandat, on veut que tout le système change.
Dans les cortèges des Algériens de tous milieux, on a pu y voir des opposants, ou bien Djamila Bouhired, une grande figure de la guerre d'indépendance, ou encore des hommes d'affaires. Sans cependant d'appel partisan, et avec toujours un même mot d'ordre. Yara, étudiante à Alger, nous le disait en pleine manif algéroise grâce à Internet.
Vous pouvez entendre les chants pour un mouvement pacifique, il y a un monde fou.
Les Algériens sont encore traumatisés par le spectre de la guerre civile des années 90. Mais les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas vécu telle époque. En revanche, depuis 20 ans, ils n'ont connu qu'un seul président, déplore Zineïda, algéroise de passage à Paris et mère d'un jeune homme de 20 ans.
Le jour où on a appris qu'il se représentait, toute la jeunesse n'en croyait pas ses yeux. On aurait cru à tout, mais pas à ça.
Demain est le dernier jour pour déposer les candidatures à la présidentielle. Si celle d'Abdelaziz Bouteflika devait être confirmée, les manifestants assurent qu'ils poursuivront leur mouvement.
Thibaut Cavaillès sur France Culture. En marge de ces manifestations, au moins 45 personnes ont été arrêtées à Alger où un homme est mort dans un mouvement de foule. Nadia Bouzegrane est donc avec nous, fondatrice du quotidien algérien El Watan et directrice de son bureau parisien. La mobilisation prend de l'ampleur. Malgré tout, ça se passe dans un relatif calme. Est-ce que ce calme vous étonne ?
Oui, le calme nous étonne. L'ampleur également des manifestations, bien que nous nous attendions à une réaction, parce que un cinquième mandat, c'est inconcevable pour n'importe quel Algérien, qu'il soit en Algérie ou à l'étranger, en France par exemple. Nous nous attendions pas à cette ampleur parce que les manifestations, particulièrement à Alger, sont interdites depuis 2001, depuis le mouvement citoyen de Kabylie. Les manifestations n'ont plus eu lieu en Algérie. Et quand il y a eu des velléités, compris pendant le quatrième mandat, elles ont été très fortement réprimées.
Et contrairement à la semaine dernière, cette fois les manifestations d'hier ont fait l'ouverture du journal de la télé officielle. Est-ce que c'est selon vous le signe de quelque chose qui change ?
Cette ouverture sur les médias publics, nous la devons à nos confrères journalistes. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'une rédactrice en chef de la radio algérienne a démissionné parce que sa radio n'a pas pu couvrir la première manifestation, celle du 22 février. Cette démission a eu la solidarité donc des confrères de la radio, mais aussi de la télévision, donc des médias publics, soutenus par les médias privés. il y a eu jeudi un rassemblement des journalistes pour demander la levée de la censure et pour que les journalistes qui se considèrent comme des journalistes de service public et non pas au service de l'État, pour pouvoir informer et dire ce qui se passe donc sur la scène algérienne.
Nadia Bouzegrane, merci beaucoup. Invité des matins du samedi, on vous retrouve après le journal avec Caroline Brouet. Un geste de paix, le Pakistan remet à l'Inde un pilote capturé cette semaine au Cachemire, une façon d'essayer de mettre fin à l'une des plus graves crises de ces dernières années entre les deux puissances nucléaires. Rien qu'hier, 11 personnes ont été tuées dans la partie indienne de la zone montagneuse. Ce sont probablement les dernières heures du groupe État islamique en Syrie, au moins au niveau territorial. Les forces anti-djihadistes ont lancé l'assaut final hier soir sur Baghouz. L'enclave est a priori la dernière poche de l'organisation. Plusieurs centaines de combattants y sont encore retranchés et résistent, Aurélien Colli.
Quelques pâtés de maisons dans la périphérie est du village de Baghouz, un bout de territoire de moins d'un kilomètre carré. Les irréductibles de l'organisation État islamique, d'après les forces démocratiques syriennes, ceux qui refusent de déposer les armes, au contraire de centaines de djihadistes qui se sont rendus ces dernières semaines ou qui ont été identifiés au milieu des civils évacués. 50 000 civils qui ont fui les combats depuis janvier, plusieurs milliers encore ces derniers jours. Le dernier convoi de femmes et d'enfants est sorti hier de Baghouz à Syrie. Les forces démocratiques syriennes accusaient les djihadistes d'utiliser les civils comme boucliers humains. Après 10 jours d'évacuation, elles estiment avoir désormais les mains libres pour lancer, je cite, « l'opération nettoyage de la dernière poche ». Leur état-major se donne une semaine. « Ça prendra fin quand tout sera fini », indique plus prudent leur porte-parole. Fini le territoire de l'organisation État islamique, mais sans doute pas sa franchise et son idéal politico-religieux.
Aurélien Colli, correspondant de France Culture à Beyrouth. En Syrie, toujours la confirmation d'une attaque chimique. D'après le rapport final de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de la chlorine a été utilisée contre la ville de Douma en avril dernier. Un gaz toxique qui aurait fait une quarantaine de morts. La crise au Venezuela et ce bras de fer russo-américain autour de l'aide humanitaire. D'un côté, les États-Unis infligent de nouvelles sanctions financières à des membres du régime de Nicolas Maduro. De l'autre, les Russes promettent un soutien renouvelé aux dirigeants socialistes. L'opposant Juan Guaido s'engage, lui, à rentrer dans son pays au plus tard lundi.
Les élections européennes approchent et Emmanuel Macron se lance dans la course.
Pas pour l'annonce de la tête de liste LREM, en tout cas pas encore, mais dès demain soir, le président sera à la télé italienne, invité de la chaîne Rai Uno, pour évoquer notamment, Yael Gauz, les grands enjeux migratoires, environnementaux et économiques.
Che tempo che fa? Domenica, 20:35. Che fuori tempo che fa? Rai Uno.
Ce n'est pas un 7 sur 7 italien, mais un rendez-vous familial du dimanche soir qu'Emmanuel Macron a choisi d'honorer. C'est l'animateur vedette Fabio Fazio, francophone et francophile, qui lui a fait cette proposition et qui est venu jeudi enregistrer l'interview au Palais de l'Élysée. Coup double pour Emmanuel Macron, tourner la page de la crise diplomatique avec l'Italie, crise provoquée par le soutien de Rome aux Gilets jaunes, et puis mise en jambe avant les européennes. Emmanuel Macron s'invite par la petite lucarne dans un pays où l'allié de Marine Le Pen, la Lega de Matteo Salvini, est ultra favorite dans les sondages. On nous annonce une première partie plus intimiste où le président raconte son premier voyage en Italie, les livres, les pièces de théâtre qui l'ont marqué, avant une adresse plus politique, la nécessité d'une Italie forte aux côtés du couple franco-allemand, dans un moment où les Européens sont plus concurrents que partenaires. La République En Marche n'a pas encore dévoilé sa liste, mais le président, lui, est déjà en campagne après la télé italienne demain soir. C'est une tribune qui paraîtra simultanément dans toute l'Union mardi, y compris au Royaume-Uni, avec des propositions sur l'environnement, l'économie, l'immigration. Emmanuel Macron ouvre l'autre grand débat, celui des Européennes.
Qui se jouera ce débat-là dans les urnes le 26 mai? Yael Gauz. Le grand débat national, lui, doit s'achever dans 13 jours maintenant, mais il n'a pas calmé la colère, loin de là. Et pour leur 16e journée de mobilisation, les Gilets jaunes veulent voir les choses en grand et revenir aux fondamentaux, Sébastien Sabiron.
À Paris, plusieurs événements Facebook donnent rendez-vous en fin de matinée sur les Champs-Élysées. L'un d'entre eux, Acte 16, insurrection, appelle à un retour aux sources. Manif non déclaré, blocage total et le plus longuement possible de la place de l'Étoile. À Lille, le rassemblement se veut international. Sur une page traduite en 3 langues, les gilets jaunes belges, anglais, luxembourgeois et allemands sont invités à grossir les rangs du cortège. Des rassemblements également à Lyon, Toulouse, Montpellier, Marseille ou encore Bordeaux, avec notamment un pique-nique place de la Bourse. À Rennes, comme la semaine dernière, la L'accès au centre-ville est interdit par arrêté préfectoral. Et puis à Nantes, des fouilles et des contrôles d'identité seront menés sur un très large périmètre. Au-delà des jets de pavés, les autorités redoutent les cacatof, comprenez les bombes d'excréments, utilisées la semaine dernière à Paris selon UNSA Police. Des appels à en fabriquer circulent sur les réseaux sociaux, relayés notamment par le gilet jaune Éric Drouet.
Sébastien Sabiron. Jean-Luc Mélenchon, convoqué par la justice cette semaine, il doit être entendu après les accrochages qui ont accompagné les perquisitions à son domicile et au siège de son parti, la France Insoumise, en octobre.
France Culture, 8h10, suite du journal de Rosalie Lafarge. L'un des frères de Chérif Chekat est en garde à vue. Chérif Chekat, c'est l'auteur de l'attentat de Strasbourg qui a fait 5 morts en décembre dernier.
Et son frère a publié hier des messages pour le moins inquiétants sur Facebook, Mathilde Lemaire.
Malek Chekat est le grand frère du terroriste de Strasbourg, de 9 ans son aîné. Hier, sur son mur Facebook, vers 14h30, il poste des messages annonçant, je cite, « Tout est prêt, ce soir je fais la une de BFM, Veni Vidi Vinci » ou encore « Bientôt une vie qui s'éteint ». Il poste aussi une photo montrant 5 armes sur un canapé, fusil d'assaut, fusil et pistolet, ainsi qu'un gilet pare-balles, des armes qui, après perquisition dans plusieurs lieux hier soir, se sont avérées factices. Mais ces messages sur Facebook ont alerté les internautes, ont été pris au sérieux par la police, car ils ressemblaient beaucoup à ceux que son cadet avait postés avant de lancer son attaque dans les rues de la capitale alsacienne le 11 décembre. Malek Chekat a été arrêté vers 16h hier alors qu'il était en train de sortir de son domicile. La police judiciaire veut faire la lumière sur ses intentions. On se souvient que Malek Chekat avait déjà été placé en garde à vue pendant 4 jours juste après l'attentat. Il avait dit regretter de ne pas avoir empêché, dissuadé son frère Chérif de commettre cette tuerie.
Les explications de Mathilde Lemaire. L'agriculture et l'agroalimentaire, des secteurs qui recrutent. Et ça se voit au Salon de l'agriculture. Il se tient encore porte de Versailles à Paris jusqu'à demain. On y trouve toutes les informations nécessaires pour décrocher un travail, Manuel Ruffez.
C'était cette semaine au Salon de l'agriculture. Un job dating à grande échelle. Une centaine de candidats à la recherche d'un poste qui défile toute la journée face à une trentaine d'entreprises de l'agroalimentaire en quête du bon profil. Exemple, Laurent Rodriguez, responsable ressources humaines pour le groupe Soufflé, qui recrute chaque année 600 salariés.
Il y a du boulot dans l'agroalimentaire, donc on est là avant tout pour présenter nos métiers, nos avantages, attirer des candidats dans nos filières qui recrutent. Parce qu'en plus, c'est des emplois qui sont en France, qui ne sont pas délocalisables, donc on a vraiment un potentiel d'emploi important dans ces métiers-là.
Et le secteur recrute dans tous les domaines. Sophie, 24 ans, a tout de suite décroché un entretien.
Exactement, là dans 2-3 minutes, mais voilà, j'ai rendez-vous.
Moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est droit de l'eau, droit des énergies, droit de la protection de la biodiversité. Et donc ça peut être aussi dans le domaine agricole, donc voilà.
Dans l'agriculture, c'est pareil, on a besoin de tous les profils pour plus d'une centaine de métiers. Michael Jacquemin, président de l'association des métiers et de l'emploi en agriculture.
Ça va de l'élevage, la viticulture, les grandes cultures, les métiers du paysage, le bois. Et dans ces 100 métiers, il y a des postes où on a besoin de hautes compétences et puis des postes où on peut arriver à rentrer sans compétences, sans expérience. Ben, c'est les petites saisons de récolte par exemple.
Et dans l'agriculture, comme dans l'agroalimentaire, la plupart des postes sont des CDI à temps plein.
Manuel Ruffez, porte de Versailles au 56e Salon de l'agriculture à Paris. La réunion entre les ministres de l'économie français et néerlandais accouche d'un groupe de travail sur l'avenir d'Air France KLM. Bruno Le Maire et son homologue se sont vus hier, 3 jours après l'irruption des Pays-Bas au capital du groupe. Une prise de participation pas très orthodoxe, a reconnu le néerlandais. Il y a tout juste 50 ans, le Concorde décollait pour la première fois. Un vol d'essai dans le ciel toulousain pour l'avion supersonique franco-britannique. Fiasco commercial, mais prouesse technologique et même remisée sous les hangars depuis 15 ans, le Concorde continue de provoquer rêve et fascination. Comme ici, au musée Aéroscopia de Blagnac, près de Toulouse, où 2 de ses avions sont exposés, Stéphanie Glézis.
Le 2 mars 1969, Concorde fait donc son premier vol d'essai. 6 mois après, c'est le premier vol supersonique. André Turca le commente au micro de l'ORTF.
Pendant que mon camarade Pinet pilotait, je lui ai simulé successivement des pannes de tous les système de stabilisation et puis enfin la réduction brutale et complète d'un moteur.
Devant les visiteurs du musée Aéroscopia, Jean-Xavier Naillet, guide médiateur, explique l'échec du Concorde.
En 1973, choc pétrolier, les compagnies aériennes qui avaient commandé des Concordes, la plupart vont faire faillite, pas à cause des Concordes, elles ne l'ont pas encore acheté, mais à cause du coût du pétrole, vont faire faillite. Ce qui fait qu'en 72-73, toutes les commandes des Concordes vont s'annuler les unes après les autres. Et fin 73-74, on ne se retrouve plus qu'avec 14 commandes, 7 pour British Airways, 7 pour Air France.
Parmi ses visiteurs, Ludovic, qui est ingénieur et formateur, cet avion l'impressionne toujours.
C'est l'avion de tous les records, aérodynamisme, vitesse, le Mach 2, quoi. c'était vraiment énorme pour un transporteur de passagers. Aujourd'hui, on n'en voit plus, quoi.
Concorde n'a pas eu de successeur dans l'aviation civile et Tom Enders, le PDG d'Airbus, a d'ailleurs précisé il y a 15 jours que le supersonique n'était pas sa priorité.
Le reportage de Stéphane Iglesis pour France Culture. À part le littoral méditerranéen baigné de soleil, la journée s'annonce pluvieuse sur toute la façade ouest ce matin et plutôt vers l'est cet après-midi. Dans la journée, comptez 11 à 17 degrés pour la plupart des régions, jusqu'à 21 près de la Méditerranée. À 8h15, la suite des matins du samedi, Caroline Brouet.
Oui, merci Rosalie Lafarge et on vous retrouve à 9h pour le prochain journal.